VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mardi 25 septembre 2018, en direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, le PDCI se retire de la coalition au pouvoir.
Au Mali, libération de 12 manifestants de l'opposition, dont 4 femmes interpellées vendredi.
En Angola, José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, a été placé en détention provisoire.
Ouverture aujourd'hui à New York du débat général annuel de la 73e Assemblée générale de l'ONU.
Et ne manquez pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a annoncé hier son départ de la coalition au pouvoir, le RHDP. Un tournant majeur dans la vie politique ivoirienne, nous dit notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Au terme d'une réunion de son bureau politique à Daoukro, la région natale de son président Henri Konan Bédier, le PDCI s'est donc prononcé en faveur de la rupture avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, une coalition mise sur pied en 2005 avec d'autres formations politiques dans le RDR d'Alassane Ouattara et qui a contraint Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir à la suite des élections de 2010. Mais depuis des mois, et surtout depuis son bureau politique du 17 juin dernier, le PDCI avait pris ses distances vis-à-vis de cette coalition. Au centre de la discorde, le projet de création d'un parti unifié auquel la formation d'Henri Konan Bédié s'est montrée peu favorable et la question de l'alternance à la tête du pays en 2020. Désormais libre de tout engagement, le PDCI se dit prêt à engager des négociations avec d'autres forces politiques en vue de la mise en place d'une nouvelle alliance. Pour plusieurs observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire, avec le retrait du PDCI du RHDP, c'est une nouvelle période d'incertitude qui s'ouvre pour le pays. Après 8 années de stabilité et à 2 ans de la présidentielle de 2020, Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique, Abidjan.
Au Togo, l'opposant Nicodème Ayao Abia, ancien député et président du parti Les Démocrates, a commencé hier son 6e jour de grève de la faim devant l'ambassade du Ghana à Lomé. Il exige ainsi la libération des personnes toujours détenues dans le cadre des manifestations organisées ces derniers mois par la coalition de l'opposition pour exiger la démission du président fort Gnassingbé. Dimanche, le pouvoir et l'opposition ont finalement trouvé un terrain d'entente sur la composition de la commission électorale nationale indépendante chargée d'organiser les élections législatives fixées au 20 décembre par la CEDEAO. La CENI a également annoncé la tenue des élections locales et d'un référendum le 16 décembre.
Au Mali, libération dimanche et lundi de 12 militants de l'opposition, dont 4 femmes, interpellées vendredi lors d'une manifestation non autorisée contre la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta face à son rival Soumaïla Cissé. C'est ce qu'a dit à l'AFP Maître Demba Diallo, un de leurs avocats, par ailleurs membre de l'URD d'opposition, le parti de M. Cissé. Selon l'avocat, 6 autres militants de l'opposition sont toujours en détention. Depuis la proclamation le 20 août par la Cour constitutionnelle de la victoire du président sortant au second tour du 12 août, l'opposition manifeste pratiquement chaque semaine contre ce qu'elle appelle la fraude électorale.
En Angola, José Filomeno dos Santos, ancien patron du Fonds souverain et fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, a été placé en détention provisoire hier. C'est dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds portant sur 1,5 milliard de dollars. Les détails avec Nani Talani.
Dans un communiqué, le procureur général Alvaro da Silva João a expliqué qu'en raison de la complexité et de la gravité des faits, et afin de garantir l'efficacité de l'enquête, le ministère public a décidé d'appliquer aux accusés une mesure de détention préventive. Selon lui, les éléments rassemblés dans le dossier constituent des preuves suffisantes que les accusés se sont engagés dans des activités de corruption. L'homme d'affaires angolo-suisse Jean-Claude Bastos de Mouret, un des proches de José Filomeno dos Santos, qui a géré une partie du fonds souverain, a lui aussi été placé en détention provisoire. En mars dernier, le fils dos Santos, surnommé Zenou, avait été inculpé pour avoir ordonné des virements suspects alors qu'il dirigeait le fonds souverain angolais. Jusque-là sous contrôle judiciaire, il avait alors promis de collaborer avec la justice. nommé en 2013 par son père à la tête d'un fonds souverain, José Filomeno dos Santos, a été limogé de ce poste en janvier dernier par le nouveau président de l'Angola, João Lourenço.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, la Maison-Blanche a annoncé hier que le numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein, rencontrera jeudi le président Donald Trump, alors que la presse parle d'un futur limogeage de M. Rosenstein. Il y a quelques jours, le New York Times avait signalé que cet officiel avait suggéré l'année dernière d'enregistrer secrètement M. Trump et parler d'un recours éventuel au 25e amendement de la Constitution des États-Unis afin d'écarter le président américain du pouvoir pour incapacité à gouverner. Monsieur Rosenstein a démenti ces informations. Il aurait offert de démissionner, selon certains confrères, alors que d'autres soulignent qu'il refuse de le faire. À noter qu'il supervise l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Toujours à Washington, le juge Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême, a démenti à nouveau les accusations d'inconduite sexuelle remontant à des décennies et portées contre lui par deux femmes maintenant. Dans une interview à Fox News en compagnie de sa femme, le juge a juré hier soir qu'il n'a aucune intention de jeter l'éponge et il a souligné qu'il n'a jamais commis d'agression sexuelle contre qui que ce soit, jamais de sa vie. Monsieur Kavanaugh, tout comme sa principale accusatrice Christine Blasey Ford, doit déposer jeudi devant la commission judiciaire du Sénat qui examine la nomination du juge. Pour le président Trump, ces nouvelles accusations relèvent de la politique politicienne.
Ouverture ce mardi du débat général annuel de la 73e Assemblée générale des Nations unies. Pas moins de 130 chefs d'État et de gouvernement, dont le président américain Donald Trump, ont effectué le déplacement. De New York, notre envoyé spécial Raïssa Girondin.
Ce mardi, tous les yeux seront rivés sur le président américain Donald Trump. Il devra évoquer l'Iran à la tribune. Le gouvernement iranien a accusé l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux d'être à l'origine d'un attentat qui a causé la mort d'une vingtaine de personnes. Le conflit israélo-palestinien, la décision de l'administration Trump sur Jérusalem, le retrait du financement de l'agence de l'ONU aux réfugiés palestiniens seront autant de questions que Trump pourrait aborder. Un autre thème favori du président américain, c'est que les autres pays membres des Nations Unies doivent apporter plus au budget. Il avait déjà prévenu que les États-Unis ne veulent plus porter ce fardeau financier injuste selon lui. Parmi les grands absents notables figurent le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre indien Narendra Modi. Du côté africain, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président sénégalais Macky Sall et le président ivoirien Alassane Ouattara ne seront pas du rendez-vous. Les missions de maintien de la paix sur le continent seront certainement abordées, tout comme la question migratoire. À l'ouverture de cette 73e session, les pays membres ont rendu un hommage particulier à Nelson Mandela et son combat pour la paix. Raïssa Girondin, depuis le Palais de Verre, New York.
Le président iranien Hassan Rouhani, qui se trouve aussi à New York, a souligné qu'il n'a aucun projet de rencontre avec le président Trump, rejetant ainsi les déclarations de ce dernier selon lesquelles il est ouvert au pourparlers. C'est ce qu'il a dit dans une interview à NBC News. Monsieur Trump a retiré les États-Unis de l'accord des grandes puissances sur le nucléaire iranien et entamé le processus de réimposition des sanctions économiques contre Téhéran.
Les employés de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens ont fait grève lundi dans la bande de Gaza afin de protester contre les licenciements prévus par l'UNRWA suite à l'arrêt des financements américains. Le point avec Morgane Guiriec.
L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens a annoncé la suppression de 250 postes à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que 500 postes transformés en mi-temps. Conséquence hier, plus de 250 écoles, centres médicaux et points de distribution d'aide alimentaire sont restés fermés. Des dizaines d'employés de l'agence ont manifesté devant le siège de l'UNWRA à Gaza pour demander que ces licenciements soient annulés. Ils menacent de mener d'autres actions dans les jours à venir. L'UNWRA aide des millions de Palestiniens dans les territoires et surtout dans la bande de Gaza, soumis au blocus israélien et égyptien. L'agence onusienne fait travailler à Gaza quelques 13 000 personnes qui font vivre des dizaines de milliers d'autres dans l'enclave, qui a un taux de chômage de 53%, un des plus élevés au monde, et plus de 70% chez les jeunes, selon la Banque mondiale. Les États-Unis, plus gros contributeurs de son budget avec 350 millions de dollars en 2017, ont annoncé fin août la cessation de leur financement, plongeant l'agence dans une grave crise financière.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Blanche Samu.
La Banque Ouest-Africaine de Développement va allouer 20 milliards de francs CFA pour la construction des logements sociaux au Bénin. Le projet s'étend sur deux volets, à savoir la viabilisation du site de Ouédo et la construction de 944 logements sociaux. Cet appui vise à fournir des logements à environ 7300 personnes et promouvoir de nouveaux modes d'accès à des logements pour les populations à revenus moyens. La production céréalière des pays de l'UEMOA a atteint 28 600 000 tonnes pour la campagne 2017-2018 selon les données du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Grâce à des conditions climatiques favorables, la campagne a connu une hausse de 2,8% par rapport à la saison 2016-2017. Dans le classement, le Mali est le plus important producteur de céréales avec plus de 9 500 000 tonnes. Il est suivi respectivement par le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En Zambie, les transactions financières via le mobile ont atteint un record de 310 500 000 dollars en 2018. Cependant, l'utilisation des guichets automatiques du billet de banque demeure primordiale dans les échanges d'argent. Le gouvernement zambien a mis en place une stratégie d'inclusion financière impliquant un renforcement des transactions par l'utilisation de la téléphonie mobile. Airtel et MTN Zambia sont les deux opérateurs qui se partagent le marché du mobile money dans le pays.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Modric, sacré meilleur joueur FIFA de l'année.
Eh oui, la remise du trophée a eu lieu hier soir à Londres. Luka Modric était le favori, lui qui a été désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde en Russie et qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Cristiano Ronaldo, également vainqueur de la C1, n'était pas présent hier soir à cette cérémonie. Officiellement, car la Juventus prépare son match contre Bologne. A noter que Didier Deschamps a été sacré meilleur entraîneur, Thibaut Courtois, le Belge, sacré meilleur gardien, et Mohamed Salah, prix Puskás du plus beau but de la saison.
Daniel Cousin, seul et unique sélectionneur du Gabon.
L'ancien international gabonais a été promu seul sélectionneur de l'équipe nationale des Panthères au Gabon, suite au désistement de Pierre-François Aubameyang, père de la star d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Annonce hier du gouvernement gabonais. L'ex-joueur de Lens a été intronisé premier sélectionneur de l'équipe gabonaise alors qu'il aurait dû partager la gestion de l'équipe nationale avec Pierre-François Aubameyang. Vendredi déjà, son fils Pierre-Emerick avait démenti que son père, malade, prendrait les rênes des Panthères. Pierre-Emerick Aubameyang avait également dénoncé l'amateurisme de la fédération qui avait annoncé la nomination de son père sans attendre sa réponse.
Sanctions en Côte d'Ivoire.
La Fédération ivoirienne de football sanctionne le président du conseil d'administration de l'ASEC Mimosa de 12 mois de suspension, une amende de 5 millions de francs CFA. Son club, l'ASEC Mimosa, condamné à payer 10 millions de francs CFA. La FIF a sanctionné Roger Ouénien pour ses sorties virulentes sur la question de l'assurance des clubs. Il avait dénoncé l'absence de couverture sociale des joueurs et des clubs et exigé la présentation des polices d'assurance pour s'en convaincre. L'ASEC Mimosa est quant à elle sanctionnée pour avoir décidé de ne pas disputer la finale de la Coupe au Fouad Boigny.
Suspension confirmée en France pour Kylian Mbappé.
La suspension du champion du monde pour 3 matchs de Ligue 1 pour son geste d'humeur face à Nîmes le 1er septembre dernier. Elle a été confirmée hier en appel par la Fédération française de football. Le joueur du PSG manquera encore un match de championnat contre Reims pour la 7e journée de la Ligue 1.
Les footballeurs espagnols ne veulent pas venir jouer aux États-Unis.
Oui, le syndicat des footballeurs espagnols a confirmé son refus du projet de match délocalisé aux États-Unis après avoir étudié les éléments fournis par la Ligue professionnelle. La Fédération espagnole avait aussi exprimé son opposition formelle la semaine dernière à cette délocalisation à Miami du match entre Rejon et le FC Barcelone lors de la 21e journée de la Liga. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'était également montré très réservé sur cette initiative.
Mondial féminin de basket en Espagne et le Sénégal qui brille.
Aucun match hier, mais ce mardi, les Lions de la Teranga tenteront de confirmer face à la Chine leur victoire historique contre la Lituanie 70-69. Même scénario pour le Nigeria, vainqueur dimanche de la Turquie et qui jouera contre l'Argentine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, la campagne électorale lancée samedi pour la présidentielle du 7 octobre se poursuit. Le président Paul Biya au pouvoir depuis novembre 1982 est de nouveau le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Il fait face à 8 adversaires dans un scrutin à un tour. Quelles sont les chances des uns et des autres? Timothée Donangmaï a interrogé à ce propos Mathias Eric Owona Nguini, professeur de sciences politiques à l'université Yaoundé 2.
Le RDPC a de l'avance, mais il doit faire aussi face au fait que de nombreux segments de la population camerounaise sont en quelque sorte lassés de la longue présence au pouvoir, non seulement du président Biya, mais de son parti. Dans les formations d'opposition, le SDF bénéficie du rajeunissement entamé avec la candidature de Joshua aussi. Il entend déployer son appareil politique qui s'est constitué depuis une vingtaine d'années, qui est fortement ancré dans les régions du nord et du sud-ouest, même s'il n'y a pas pu constituer des positions dans le littoral et l'ouest. Cette formation va pâtir de la situation critique qu'il y a dans les deux régions du nord et du sud-ouest en raison de la présence d'un mouvement armé sécessionniste. Le professeur Maurice Kamto amène un véritable marathon électoral depuis plusieurs semaines, espérant pouvoir faire face à l'implantation du RDPC. Le candidat Kéré Mouna, également, en s'appuyant sur un mouvement citoyen, le mouvement NOW, également essaie de se déployer. Le problème du candidat Mouna, c'est qu'il a récupéré un parti dont il n'était pas initiateur et un parti qui n'a pas une forte implantation. Le candidat Cabral Idi mise sur un répertoire politique qui est fortement tourné vers la soif du changement et surtout l'aspiration des jeunes à participer pleinement au processus politique et à obtenir l'alternance.
Vous avez parlé des troubles dans les zones anglophones du pays. Le Cameroun connaît également des problèmes de sécurité dans l'extrême nord avec les attaques de Boko Haram. Quelles vont être les incidences de ces deux situations sur le scrutin du 7 octobre?
Les situations ne sont pas strictement identiques, même s'il existe de manière résiduelle des violences dans l'extrême nord du Cameroun. La situation est globalement sous maîtrise, même si le potentiel menaçant de Boko Haram n'est pas complètement anéanti. La situation qui apparaît la plus préoccupante, c'est évidemment celle qui existe dans les régions du nord-ouest et du sud-est, les régions des anglophones, en raison de la présence de plusieurs groupes armés sécessionnistes. Mais ces dernières semaines, les forces de défense et de sécurité ont engagé une action de rétablissement de l'ordre qui semble porter ses fruits. On a ainsi vu les équipes du RDPC pouvoir commencer leur campagne dans les villes clés de ces régions-là comme Bamenda et Boya, qui étaient pourtant ces dernières semaines confrontées à l'action de ces groupes armés.
Le professeur Mathias Eric Owona Nguini de l'Université Yaoundé 2 au Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Gabon, la Cour constitutionnelle a décidé depuis juin dernier de fixer un montant pour chaque recours électoral qu'elle est appelée à examiner. À 12 jours des élections générales, une vingtaine de membres de la société civile composée de juristes, écrivains, économistes, politologues, enseignants ou leaders d'ONG ont dénoncé le coût des recours électoraux. Quel impact cette décision peut-elle avoir sur la vie politique gabonaise? Nanit Talani a joint à Libreville Marc Ona Essangui, fondateur de l'ONG Brain Forest.
La Cour a pris une décision qui consiste à dire que si, par exemple, un citoyen veut introduire un recours par rapport aux élections, parce que la Constitution dit clairement que n'importe quel citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle pour contester une élection ou bien une fraude électorale. Et c'est gratuit. Il se trouve que la Cour constitutionnelle, on ne sait pas par quelle inspiration, vient de décider que tout recours qui concerne les élections, élections locales, élections législatives, élections présidentielles, devrait être accompagné par avoir une somme d'argent. Par exemple, pour les élections locales, si vous avez envie d'introduire un recours, vous devez payer 100 000. Pour les élections législatives, il faut payer 500 000 francs.
Qu'est-ce que vous dénoncez dans cette décision de la Cour?
La décision que la Cour vient de prendre est une décision qui viole les droits des citoyens à pouvoir saisir les juridictions en cas de problème, en cas de recours. La Constitution confère à tout citoyen le droit d'intervenir, bien de solliciter, d'interroger les différentes juridictions qui sont dans notre pays. Et de manière gratuite, c'est un droit constitutionnel. Et aucun droit constitutionnel ne peut être monnayé. Vous imaginez, tout citoyen en possession des preuves d'une fraude ou bien d'une violation des dispositions liées aux élections, se doit d'abord d'aller chercher un peu d'argent et d'interroger la Cour. Est-ce que c'est constitutionnel? La Cour qui est habilitée normalement à trancher de la constitutionnalité des actes posés au quotidien par les citoyens venait à monnayer cette requête introduite auprès d'elle. On est où? C'est une violation flagrante de la Constitution par une institution qui est habilitée à juger de la constitutionnalité des actes posés au quotidien par les citoyens. C'est ce qu'on dénonce parce qu'aujourd'hui, saisir la Cour constitutionnelle revient à dire qu'il n'y a que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des moyens, qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Alors que la Constitution confère à tout citoyen, quel que soit son statut, le droit de saisir la haute juridiction. Mais c'est ahurissant.
Quel impact cette décision pourrait-elle avoir sur la vie politique gabonaise?
Mais ça va avoir un impact clair. Seuls ceux qui ont les moyens peuvent non seulement frauder, mais peuvent aussi sortir indemnes de leurs actes de fraude. Parce que le citoyen lambda, qui est sur le terrain, qui peut constater les irrégularités, ne peut même pas saisir la Cour constitutionnelle. À supposer que moi, je suis citoyen, je viens de constater des irrégularités au cours d'une élection, quelle que soit l'élection, je détiens toutes les preuves. Mais je n'ai aucun moyen financier d'interroger la Cour. Simplement dire que ce sont ceux qui ont l'argent, qui ont le droit de saisir la Cour, et ce sont ceux-là qui ont toujours l'argent, qui peuvent orchestrer la fraude, sachant très bien que ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas dénoncer cette fraude. Alors que la Constitution confère à tout citoyen, quel que soit son statut, le droit de saisir la haute juridiction. Mais c'est ahurissant. Et la Cour est complice. Vous imaginez le scandale que ça peut constituer venant d'une Cour constitutionnelle. C'est la première fois que nous vivons ce type de situation dans un pays qui se veut démocratique.
Quelles actions comptez-vous mener contre cette décision?
Nous avons publié une tribune aujourd'hui et cette tribune va nous permettre d'envisager d'autres actions. Nous attendons la réaction de la Cour constitutionnelle. Si elle demeure à fond comme d'habitude, parce qu'elle est complice de la captation et de la confiscation du pouvoir, nous allons engager d'autres actions que je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Nous attendons d'abord que la Cour réagisse par rapport à cette interpellation. Nous attendons qu'il y ait un peu de sagesse du côté de cette Cour qui est à tort ou à raison qualifiée de tour de pise.
C'était Marc-Ona Essangui, fondateur de l'ONG Brain Forest.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les habitants de Beni ont décidé de prolonger leur grève générale jusqu'à vendredi. Ils protestent contre une nouvelle tuerie attribuée aux rebelles ADF et qui a fait 21 morts. Selon le ministère de la Santé, certaines activités de riposte à l'épidémie d'Ebola, qui a tué 100 personnes dans la région de Beni, ont été temporairement suspendues. Les commerces et écoles devront rester fermés à l'appel de la société civile. Peggy Wabeno a joint Kizito Binangi, premier vice-président de la société civile de Beni.
Oui, c'est un danger pour la population de Beni, mais c'est une décision du gouvernement congolais à travers le ministre national de la Santé suite à l'insécurité grandissante caractérisée par les massacres à Beni. D'ailleurs, cette décision du ministre de la Santé au niveau national vient d'être appuyée et soutenue par la société civile de Beni qui s'est réunie ce lundi 24 septembre à son bureau pour analyser les contextes sécuritaires qui prévaut actuellement. C'est comme ça qu'en réunion, les organisations de la société civile viennent de décider qu'on puisse également suspendre les activités de riposte contre Ebola parce que les habitants disent mieux vaut mourir par Ebola que de mourir par le massacre à ville de Beni. Et les organisations exigent également la suspension des activités de toutes les organisations internationales, nationales, et même local, ainsi que de la MONUSCO sur terrain insécurisé.
Et ces organisations sont aussi exposées par cette insécurité causée par les présumés ZADF. C'est pourquoi les organisations de société civile demandent également la suspension de leurs activités sur terrain ici.
Vous ne craignez pas qu'il y ait de nouvelles contaminations?
En tout cas, la population, comme elle est déjà informée sur les mesures de protection, on ne craint pas qu'il y aurait d'autres contaminations. La population dit qu'elle va se prendre en charge en mettant ou encore en respectant les règles hygiène pour qu'on ne puisse pas assister à des contaminations. Maintenant, on demande à ce que le gouvernement puisse éradiquer d'abord définitivement les présumés ZADF qui sont en train de venir massacrer, tuer et piller les biens de la population. C'est comme ça que la société civile, avec ses composantes, soutient la mesure du ministre de la Santé au niveau national.
C'était Kizito Binangi, premier vice-président de la société civile de Béni.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Rentrée scolaire hier au Togo, les élèves des cours primaires et secondaires entament ainsi l'année scolaire 2018-2019. Cette rentrée est aussi effective à l'école Efata des sourds de Lomé. Notre correspondante Kayi Lawson s'y est rendue.
Comme dans tout établissement scolaire, c'est avec un rassemblement sous le mât que les élèves de l'école Efata ont débuté leur année scolaire. Le drapeau hissé, les élèves ont eu droit au discours inaugural du corps enseignant.
Les enseignants sont déjà prêts, vous allez recommencer les cours, donc votre attention est le travail.
Chaque rentrée, les enseignants sont aux petits soins avec les tout-petits. Pour les élèves inscrits à la maternelle, le premier contact peut être difficile.
Au début, c'est d'abord l'apprendre à saluer. Tu t'assois et tu fais le signe. Et au fur et à mesure, ils te voient là et ils s'adaptent. C'est quand ils maîtrisent toutes ces choses-là qu'on va même dans le vif du sujet pour le travail de classe.
Et Fata, qui dispense des cours en langue des signes et n'accueille que les enfants sourds, malentendants et muets, attire de plus en plus de parents d'élèves.
Par le passé, je l'avais inscrit dans une école privée, mais je n'ai pas eu un bon résultat. C'est pour cela l'année passée j'ai commencé ici. Il y a un grand changement dans la vie de ma fille et la conversation est là. Je suis très satisfait.
L'établissement accueille une centaine d'élèves. Les cours dispensés sont les mêmes que dans les écoles dites normales. Pourtant, ces élèves n'ont pas les mêmes opportunités ni les mêmes débouchés à la fin de leur curriculum. Après l'obtention du certificat d'études du premier degré CEPD, ces enfants en situation d'handicap auditif n'ont pas de collège spécialisé. En 2018, aucun élève de l'école Efata des sourds n'a décroché le diplôme CEPD. Est-ce le manque ou l'absence d'établissements scolaires spécialisés qui ne motive pas réellement les élèves ou une baisse du niveau d'encadrement? Les responsables de l'établissement comptent revoir leur méthode cette année pour de meilleurs résultats. Kay Lawson pour VOA Afrique, Lomé.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.